Mes chers amis, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur un énième live Golasso. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis de retour avec un fond d'écran spécial. J'espère que mes collègues ne vont pas vouloir m'étrangler. J'espère que vous allez tous bien. Ça fait un moment que j'étais absent. Je suis de retour pour parler de football portugais avec mes chers acolytes. Je vais les présenter un par un. On est plusieurs ce soir, plein de spécialistes comme d'habitude. Mathieu, comment vas-tu? Qui est aussi à la régie. Non, il est stylé ou pas?
Je suis abasourdi. Un, il vient jamais. Deux, il revient quand il me bat. Trois, il met un fond d'écran Hello Kitty. Mérites que je te vire du live, mais comme on a besoin de toi aujourd'hui, voilà. Bienvenue, merci.
Juste pour préciser une chose, je ne suis pas venu parce que Benfica a gagné.
Oui, c'est ça.
Sinon, je viendrais tout le temps, en fait. Pas trop ces dernières semaines, pour le coup. Mais c'est surtout que l'horaire est arrangeant, étant donné que je ne vis pas en France.
On enchaîne. C'est vrai.
De fou. Kevin est aussi avec nous. On va parler de Porto et d'Uribe aussi ce soir.
Comment vas-tu, Kevin? Très, très bien. Très, très bien. Moi aussi, je suis de retour. Ça fait quelques semaines que j'étais absent. Pas comme Ton, mais bon. Oui. Et bon, après, moi, c'est un peu plus difficile aussi parce que le FC Porto ne m'aide pas. Vu les prestations assez nulles qu'ils font et qui me font dormir à chaque fois.
Qu'est-ce que c'était du rire.
Ah, c'était... J'ai essayé hein, hier, j'avoue que j'ai pas été au bout. j'ai pas tenu et on a un dernier invité qui va apparaître également, qui a quelques problèmes de connexion. Mais ce n'est pas sa faute, je vais pas gazer avec lui parce que c'est le patron. Alex, comment vas-tu?
Ça va, en plein déménagement, donc je m'excuse d'avance pour la connexion, j'ai pas de wifi, j'ai rien, donc voilà, on verra comment ça se passe durant l'émission, mais très content d'être là. On vient juste de rentrer de vacances, donc c'est cool, et moi j'ai pas pris le risque de regarder Arouca Porto hier, donc j'ai passé une très bonne soirée.
Eh ben écoute, parfait, c'était comment Rome là?
Non, très bon, écoute, 25 degrés, météo, parfaite, quand t'arrives à Paris il pleut, donc c'est magnifique.
Ah, je sais pas ce que c'est, j'habite pas non plus à Paris. bref, parlons, c'est quoi le programme Mathieu aujourd'hui? Excuse-moi parce qu'on m'a pris de court un peu. On parle de Benfica Braga, on parle d'Uribe, est-ce qu'il y a autre chose au programme?
Non, il n'y a que ça.
Non, ça serait okay, tout.
Parfait, parce qu'on est ensemble pour une heure. Voilà, parce qu'après il y a la demi de Ligue des Champions qui opposera le Real à City et qui donc décidera du vainqueur et qui ira jouer en finale contre le vainqueur de Naples, Benfica, dans l'autre demi. C'est le mec, il est dans le déni.
Totalement.
Bref, commençons, parlons de Benfica Braga. Ça s'est joué ce week-end, j'étais dans le stade, Braga qui s'est incliné à l'extérieur, donc Braga qui était encore dans la course au titre avant le match. Je vais lancer Mathieu sur le sujet. Première question, qu'est-ce que tu as pensé du match? Et pour conclure ta première analyse, évidemment qu'on ne va pas aller aussi vite que ça, est-ce que tu penses que Braga est toujours dans le coup ou est-ce que l'objectif c'est clairement la seconde place? Et est-ce que selon toi c'est faisable?
Oh, l'objectif depuis hier n'est même plus la seconde place. L'objectif il est de consolider la troisième, logiquement. Vu la victoire du FC Porto, vu qu'il ne reste que trois matchs, donc 9 points, il faudra un miracle pour que Braga finisse deuxième. À partir de samedi, on a un peu rêvé comme quoi si on faisait un bon résultat, pourquoi pas y croire, même s'il y avait quand même encore beaucoup de scénarios qui faisaient que Braga allait quand même être difficilement champion, même avec un bon résultat samedi. Mais là désormais, il n'y a que la troisième place qui compte et qui sera déjà un beau podium pour la belle saison qu'on réalise, qu'il faudra quand même se valider sur les trois dernières journées. Et sur le match, globalement, tout ce que je redoutais a eu un peu lieu, dans le sens où il fallait, face à ce Benfica-là qui jouait son titre, peut-être certes jouer un jeu différent, ce qu'on a, je pense, essayé de faire, mais malheureusement, on l'a fait avec les mêmes joueurs. Et globalement, on a essayé de, on reviendra après, de jouer un jeu un peu différent avec la même composition de ces derniers matchs, qui était une composition qui nous avait beaucoup apporté sur des matchs plus entre guillemets différents, comme les matchs à Sachavre, face à Gilicien, face à Portimonense, face à Estoril, des équipes différentes, quoi, comme on le sait, qui vont défendre un peu plus bas, qui vont chercher, le contexte, on le connaît face à ces équipes-là. La formule d'Arthur Georges fonctionnait bien face à ces équipes-là, mais même très bien. Face à Benfica, il fallait autre chose. Et malheureusement, on n'a pas réussi à la fois offensivement à faire mieux, et défensivement, je trouve que cette équipe ne sait pas défendre, tout simplement. Je trouve qu'on ne sait plus, on sait plus défendre, on ne sait plus défendre en bloc. On est une équipe qui a beaucoup, beaucoup souffert cette saison quand on a essayé de défendre un peu plus bas. Pour contrôler la largeur, pour contrôler le milieu de terrain. Encore pire quand on a été sur ces quelques matchs cette saison à 10, face au Sporting à l'Alvalade, face à Guimarães là-bas aussi, face à Fiorentina à l'aller. Des matchs où on n'a absolument jamais réussi à défendre bas et à tenir un score et à tenir un peu sur une longue période durant ces matchs-là. Donc globalement, on a fait un peu tout ce qu'il ne fallait pas faire dans un match qui ne restera qu'une pas une immense déception non plus, dans le sens où l'adversaire le plus fort a gagné, et nous on reste dans nos objectifs et dans la belle saison qu'on réalise, qui est de finir sur le podium jusqu'à la fin de la saison.
Alex, je sais que tu as vu le match aussi après coup, il me semble. Ouais. Est-ce que tu connaissais le score avant le match, et qu'est-ce que tu en as pensé toi du coup?
Non, non, tiens, je voulais te poser une question, l'ambiance, comment elle a été, Nalouj, qui a été,
c'était fou, non c'était sûrement l'une des plus belles ambiances de la saison, je pense.
Ouais.
Ouais, c'est dans le top 3 de la saison, je pense, avec peut-être le match contre la Juventus et peut-être un autre que j'oublie. Mais honnêtement, impressionnant. Et honnêtement, ce but-là, l'ouverture du score, j'allais dire sur l'ouverture du score, mais de toute façon, c'est le seul but du match. Tu sens que c'est un soulagement pour tout le monde et qu'il se passe un truc sur le but, genre.
Ouais, je vois. Pour revenir sur tes propos, comme par hasard, c'est lorsqu'il y a les meilleures ambiances que les joueurs se mettent un peu au diapason. Et je pense qu'il y a vraiment une corrélation entre les deux. C'est le stade a répondu présent et les joueurs ont répondu présent aussi sur ce match-là. Et il fallait taper du poing sur la table. Pour pas faire de mauvais jeu de mots avec Rui Costa, il fallait un peu répondre présent et montrer à tout le monde que Benfica était le futur champion, ou du moins avait envie d'être champion et avait toute la légitimité d'être champion du Portugal. Et ils ont fait le match qu'il fallait. Ils ont fait le match qu'il fallait pour gagner ce titre, parce que pour moi, je pense que ce match-là était un véritable tournant pour la course au titre. Bien évidemment, tout est possible dans le football, mais déjà que je pensais que Benfica allait être champion, avec cette victoire-là, je ne vois pas comment le FC Porto peut revenir sur Benfica. Et là, voilà, en gagnant ce match-là, bah, tu t'envoies un vrai message, surtout avec le contenu, et tu montres que, bah, que tout simplement tu es la meilleure équipe du championnat portugais cette saison-là. Et ils ont fait un vrai match dans l'intensité, dans le rythme, dans le contenu. Tous les joueurs se sont mis au diapason, à part peut-être Gonçalo Ramos qui a été un peu plus en difficulté sur ce match-là, mais tous les joueurs se sont mis au diapason, tous les joueurs ont répondu présent sur cette affiche-là, les supporters aussi ont répondu présent, et pour moi, voilà, j'ai vraiment pris du plaisir à regarder ce match-là. Je m'y attendais parce que c'est deux équipes quand même qui jouent au football et qui jouent pour gagner. Et c'est vrai que j'ai été déçu sur la prestation de Braga, mais Benfica a vraiment fait le match qu'il fallait pour gagner ce match-là. Il y a eu du rythme, de l'intensité, tout ce qu'on aime de voir dans le football, simplement. Et il y a aussi un sacré petit Jean Neves qui a fait un top match. Et ça fait toujours plaisir de voir ce genre de joueur, ce jeune joueur comme ça se révéler lors des grands rendez-vous. C'est important pour notre football. Mais en termes de qualité, voilà, j'ai pas de joueur à mettre en avant à part Jean Neves, mais non plus pas de joueur à critiquer, parce que vraiment Benfica s'est réveillé au très bon moment. Il fallait gagner ce match-là, parce que si tu perdais, je pense que ça devenait compliqué pour le titre. Je pense qu'au niveau du moral, tu prenais un coup, tu allais encore au Sporting. Et là, en gagnant ce match-là, tu mets un coup à tes adversaires surtout, et toi, tu reprends confiance en tes qualités. Et maintenant, il y a une voie libre pour le titre. Et je pense que Benfica et tout simplement fait le match qu'il fallait pour gagner ce match, pour être champion, et ce sera entièrement mérité.
Ok, avant de rentrer plus dans l'analyse tactique, parce que j'aimerais en parler, encore une fois, moi j'ai une perception peut-être différente de la vôtre, parce que vu du stade, c'est forcément différent de la télévision, et j'ai pas revu le match depuis. Kevin, est-ce que toi, tu as vu ce match-là, et est-ce que tu t'attendais à une prestation comme ça de Benfica, qui, on peut le dire, ne jouait pas comme ça depuis un moment, et on ne s'attendait pas forcément à une réaction, surtout contre Braga, qui avait encore tout à jouer avant ce match-là. Est-ce que tu as vu le match d'abord? Et si oui, qu'est-ce que tu en as pensé?
Oui, j'ai vu le match, parce que c'était quand même un match qui comptait aussi pour le FC Porto, vu qu'on voulait tous, en tout cas ce supporter du FC Porto, une victoire de Braga et une défaite de Benfica. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Mais après, c'est vrai que sur le match, c'est entièrement mérité de la part de Benfica. parce que Braga n'a pas montré grand-chose en tout cas, ou par quelques fulgurances, mais c'était plus des fulgurances individuelles. En tout cas, collectivement, j'ai pas trouvé que Braga a su mettre en place son jeu. C'était plus Benfica qui était au niveau, qui a fait un peu pas un match parfait, parce qu'ils ont quand même concédé des occasions assez dangereuses, mais ils ont pas été plutôt beaucoup mis en danger par Braga, à part Bruma qui a fait quelques différences sur le côté face à Horsnes. Sinon, c'était assez léger. Il y avait des joueurs qui n'étaient pas au niveau du côté de Braga, à l'image des frères Horta ou Medeiros. Mais c'est dommage parce que je pense que Braga aussi a souffert de l'absence plutôt de Alonso Rati, parce qu'on sait que c'est un peu la pièce maîtresse de Braga. Et que tu vois sur ce genre de match que s'il n'est pas là, bah, c'est plus le même Braga, quoi. C'est un peu le maestro de cette équipe, c'est lui qui dicte le rythme du match, qui dicte le jeu de Braga. Et sur ce match, bah, Benfica a eu un peu la tâche facile parce que tu as eu des joueurs qui étaient au niveau. Et au final, bah, tu as su gagner là où il fallait. Et c'était un match à pression. Au final, ils l'ont gagné. Et bravo à eux parce qu'après, il y a des joueurs aussi qui ont été performants. Image d'un joueur Neves, comme il a dit Alex, qui faire cette prestation à 18 ans dans un match aussi important, franchement, chapeau.
C'est pas anodin, comme dit
Yes.
l'autre.
Oui, effectivement, effectivement. Et on en parlera plus en détail de João Neves et des perfs individuels après, mais j'aimerais l'avis de Mathieu, je t'en ai un peu parlé de ça déjà, mais je rebondis sur ce qu'a dit Kevin. Toi, tu as été surpris par le match et les intentions de ton équipe, de ce que j'ai compris. Est-ce que tactiquement, quel a été l'impact de vraiment réellement tactiquement de cette absence d'Alou Mousrati, selon toi?
Majeur. Alors, est-ce qu'avec El Moussrati Braga aurait fait un meilleur résultat? C'est pas automatique. Hein. C'est difficile aussi de voir sur d'autres matchs. Est-ce que Braga aurait été autant en difficulté sans El Moussrati? Je pense que tu perds quelque chose, mais est-ce que face à Estoril, face à Gil Vicente, face à ces équipes-là sur les dernières semaines, est-ce que tu perds tout ton niveau sans El Moussrati? Je ne pense pas. Je pense que par contre, sur ce match-là, face à Benfica, oui, tu ne pouvais pas. Enfin. Tes chances, ta probabilité de gagner ce match ou d'obtenir quelque chose était franchement réduite du moment que Almousrati n'était pas sur la feuille de match. Ça, c'est certain. Parce que c'est le joueur qui fait tout, à la fois défensivement et offensivement au milieu de terrain. Enfin, tout, c'est un grand mot. Hein. C'est juste pour remettre un peu en perspective l'importance qu'il a cette saison. C'est selon moi le meilleur milieu de terrain au Portugal. Je le dis avec beaucoup de conviction et beaucoup d'arguments parce que. À la fois offensivement et avec ballon, je pense qu'on est assez. Voilà, on sait tout ce qu'il peut apporter à la fois dans cette capacité à conserver, dans cette capacité à résister sous la pression, cette capacité à valoriser, enfin à trouver un peu toutes les zones par la passe, beaucoup plus que par la passe que par le dribble. Et oui, défensivement cette année, et on l'a vu sur les deux rencontres d'ailleurs face à Benfica, et même sur les autres rencontres cette saison, notamment face à Porto au Municipal, c'est aussi un garçon qui t'apporte, qui voilà, qui a cette saison a, selon moi, franchi un palier d'un point de vue du jeu défensif, d'un point de vue de l'activité, d'un point de vue de la réaction à la perte, et qui fait en sorte que c'est un milieu de terrain si complet que ça. Voilà. Perdre Al Mousrati sur un match face à Benfica, qui est une équipe avec un modèle de jeu riche, qui est une équipe avec énormément d'arguments sur un peu tous les niveaux, c'était une mission très compliquée de s'imposer avec sans Al Mousrati à la loose samedi dernier. Par contre, voilà, il n'y avait pas que ça selon moi. Enfin, je pense que son absence aussi. Son absence influe sur le jeu aussi, sur cette volonté de Mateusz, sur ton premier temps, de beaucoup allonger, de beaucoup trop allonger sur Abel Ruiz. Et c'est là où j'en reviens sur les propos de. Donc, on a joué un jeu qui est. Mais on n'avait pas mis les joueurs pour, c'est qu'on a essayé de jouer avec un attaquant fort, dos au but, pivot, sans l'avoir finalement. Si on l'a sur le banc, on a Simon Banza, mais on ne l'a pas fait jouer. On a essayé d'attaquer ensuite la profondeur avec un quart d'orteil Yoré Medeiros. C'est pas parce que ça a marché au match aller, et on se souvient de ce troisième but, que ça a marché à tous les coups, et surtout dans un Benfica qui était 1000 fois plus concentré. Donc. Voilà, à la fois dans les difficultés qu'on a depuis le début de la saison pour défendre, plus la manque d'Al Mousrati, plus le fait d'avoir appuyé sur des forces qu'on n'avait pas, puisqu'on n'avait pas forcément les joueurs sur la feuille de match, enfin sur la pelouse dès le départ pour jouer ce jeu, on fait qu'on a réalisé une prestation globalement extrêmement moyenne, aussi due par notre faute, mais aussi due à la qualité de l'adversaire qui a fait aussi, je pense qu'on le répétera assez souvent ce soir, un grand match selon ses forces, selon ses caractéristiques depuis le début de la saison, avec un peu un manque d'efficacité qu'on revoit un peu sur les dernières semaines, mais c'est peut-être un petit peu normal aussi par rapport à la tension qu'il y a sur cette fin de championnat, ce qui peut s'expliquer. Mais globalement, je pense que toutes ces raisons-là ont fait que Mefica a dominé largement Braga samedi dernier.
Pourtant, il y avait le plan de jeu était. Enfin, j'ai trouvé que le plan de jeu au début, surtout les 15-20 premières minutes de Braga, n'était pas incohérent, surtout au niveau du pressing. On voyait que Abel Ruiz et Ricardo Horta pressaient haut et fort, surtout sur Blas Odimos, sur le triangle défensif, qui donc était Blas Odimos, Antonio Silva et Otamendi, parce que c'est pas des joueurs qui sont non plus extraordinaires à la relance. Antonio Silva n'est pas mauvais à la relance, loin de là, mais c'est pas le joueur le plus fort à la relance qui puisse exister au monde. Et on voyait vraiment que le plan d'Arthur Jorge était vraiment de presser haut pour mettre en difficulté les relances de Braga. De Benfica, pardon, mais finalement ce plan n'a pas vraiment fonctionné. Il y en a vu qu'au bout de 20 minutes, bah, tu ne savais plus comment défendre face à cette équipe qui était vraiment au-dessus. Je trouve que Benfica a fait vraiment le match, je dirais pas parfait parce qu'il n'y a aucun match qui est parfait, mais qui ont su répondre à toutes les problématiques qu'avait mis en place Arthur Georges.
Yes, exactement. Mathieu, je reviens vers toi. Est-ce que malgré la non-performance de ton club, qui moi aussi, de vue du stade, m'a quand même surprise, parce qu'effectivement, ça pressait haut, mais ça laissait quand même beaucoup jouer. Et je n'ai pas trouvé qu'il y avait énormément d'intention quand on sait de quoi ce Braga-là a été capable cette saison et est capable concrètement. Est-ce que tu serais en mesure de tirer du positif quand même de cette performance? Est-ce qu'il y a un point que tu peux... Outre le résultat qui lui est mauvais clairement pour Braga,
il y a quelques individualités qui ressortent. Hein. Je pense que la première mi-temps de Borja est pas mal, sauf certains coups et un peu sur la dynamique de ces dernières semaines depuis qu'il est titulaire suite à la blessure de Sekara. T'as la performance de Bromin. Après j'ai un peu mis quelques pincettes sur sa performance parce que ces derniers jours, même si bien évidemment que ça a été le meilleur jour de Braga d'assez loin, même de très loin sur ce match-là, mais certaines décisions, certains comportements ont fait en sorte sur moi qui ça a permis à certains moments de ne pas aller véritablement au bout de toutes les actions qu'on aurait pu mener en transition, parce qu'à certains moments quand même Benfica a où tu pouvais quand même faire beaucoup plus mal en transition, je trouve, surtout en début de deuxième mi-temps. Mais sinon, oui, Bromin a été le meilleur joueur de cette équipe et t'as un très bon niveau depuis quelques semaines. Et tu sens que, voilà, à son arrivée, il y avait un vrai problème physique, dans le sens un problème d'accélération, dans un contre-un qui nous avait habitués. J'avais du mal à comprendre comment tu pouvais perdre ça en un an, puisqu'encore l'année dernière, du côté de Fenerbahçe, il arrivait quand même à faire certaines différences. Donc voilà, je pense que c'est aussi parce que sa blessure de la première partie de saison, le fait qu'il ait très peu joué avant d'arriver à Braga, on fait qu'il y avait besoin d'un temps aussi de réathlétisation, si on peut dire ça comme ça. Et sinon, je mettrais en perspective aussi la performance des centraux qui ont quand même pas été mauvais. Oui, Niakate fait une erreur sur le but de Rafa, bien sûr, mais c'est. Comment dire, c'est cette façon de défendre d'Arthur Georges depuis le début de la saison qui est très portée sur l'individuel, même quand tu presses, qui fait en sorte que voilà, tu as peu de couverture autour de toi. Il n'y a qu'à t'emmener là, ce sont des défenseurs qui, quand ils sont à un très bon niveau, sont capables, par leur vitesse et par leur qualité individuelle, de résister à ces confrontations, à ces actions en 1v1. Mais sur une action pareille, si tu te loupes d'une demi-seconde et que tu avances quand il faut reculer, c'est ce qui s'est passé sur le but, et Rafa te prend la profondeur et c'est un face-à-face. Donc, je n'en veux pas du tout pour ça, parce que je pense que c'est une façon globale de défendre de l'équipe qui a été mise en valeur et qui doit mettre en perspective et qui a fonctionné certaines fois, et la plupart du temps, qui n'a pas fonctionné sur ce match-là, sur cette action-là. Mais sinon, globalement, les deux sont à un très bon niveau depuis quelques semaines et voilà, permis aussi à que Braga arrive à ce 5 mai, je crois, enfin 6 mai, c'est donc samedi dernier, à potentiellement jouer un match pour le titre face à Benfica, qui est loin d'être une habitude pour le club sur cette dernière saison. Et on espère par contre que ça va enclencher une bonne dynamique pour les saisons suivantes.
Et toi, Tan, ton avis sur Benfica un peu, tu n'en as pas parlé.
Justement, j'allais y venir. Benfica fait un match, d'ailleurs j'aurais une autre question pour Mathieu après, qui vient de me venir. Benfica fait un match qui me surprend compte tenu de la dynamique et des performances qu'on a vues ces dernières semaines. On avait un peu l'impression que les joueurs étaient complètement cramés. tu sais, on était arrivé à un point qu'on redoutait depuis le début de saison, dans le sens où ça jouait bien, les intentions étaient bonnes, mais le groupe était beaucoup trop limité, le banc n'existait pas, le coach n'avait pas du tout confiance dans ce banc-là, et donc on se disait bien qu'à un moment donné, ça allait craquer, en fait, entre guillemets, ils n'allaient pas tenir le rythme, et c'est un peu ce coup de mou qu'on a connu ces derniers temps, où bien qu'on fasse match nul à Milan, on ne sait pas trop comment, au match retour et tout ça, on voit très bien que dans les intentions, l'équipe n'avance plus, l'équipe commence à presser à l'envers alors qu'on avait un gros pressing très bien organisé en début de saison. Tu sens que ça ne compense pas les efforts des uns, tu sens qu'ils sont cramés, en particulier João Mário, en particulier Gonçalo Ramos, en particulier Rafa aussi, énormément ces dernières semaines. Et du coup, quand tu abordes ce match-là, honnêtement, moi j'étais dans le stade et je suis souvent au même endroit parce que je bénéficie souvent du Red Pass de notre bel ami Dani, que j'embrasse fort et que j'espère qu'il va bien. Et donc, à être tout le temps au même endroit, tu sais, on est souvent avec les mêmes personnes et donc on a nos habitudes et tout. Et en arrivant dans le même groupe de personnes qu'on se voit tous les 10 jours depuis un an ou presque, on n'était pas du tout confiants. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une ambiance pesante où on se disait c'est ce soir ou jamais, il va falloir répondre présent. Et compte tenu de la dynamique actuelle, Braga a tout à jouer et nous on a tout à perdre, c'était un peu tendu. Et au final, assez surpris de l'entame de match. Il y a quelque chose que je dis souvent, désolé je débite, ça fait longtemps que je suis pas venu sur Golasso. Il y a quelque chose que je répète souvent quand je vais au stade, et avant même cette année j'ai fait des dizaines de matchs pour ne pas dire plus. Tu sais directement dès les premiers ballons et dès les premières secondes, selon l'intensité, selon la dynamique de l'équipe, si on va faire un bon match ou pas, en fait. Et c'est un truc dont on a souvent parlé avec Philippe, notamment avec Dani également aussi. Souvent, dans les grandes rencontres, on va rentrer et tu vas avoir l'impression que les joueurs, ils tremblent et ils ont peur. Et là, dès les premières secondes du match, je me suis dit, à moins d'un problème de réussite, qui était quand même assez récurrent aussi depuis quelques semaines, dans l'intensité et dans les intentions, on était rentré pour gagner ce match-là, en fait. C'est-à-dire que même si on laisse pas mal d'espace derrière et qu'il a failli bénéficier à Braga, et notamment par le biais de Bruma, comme l'a dit Mathieu, Bruma qui a aussi également profité du fait que Horsnes ne sache pas défendre, littéralement, tu sens qu'il y a un truc et l'équipe n'est pas pareille et un peu métamorphosée par rapport aux semaines d'avant. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il explique. Peut-être, comme tu as dit, Alex, que c'est dû au stade. On était plus au stade que sur les matchs précédents, parce que je crois qu'on était 60 000 et quelques, alors que d'habitude, les derniers matchs, on était 58 ou 56. Je ne sais pas si c'est cette différence-là qui fait une énorme différence. Mais en tout cas, il y avait une atmosphère différente, clairement. Et au niveau du match en lui-même, l'équipe rentre avec une intensité différente, une intensité retrouvée qu'on ne voyait pas depuis un moment. Beaucoup de courses. Très inefficace encore, hein, si on a toujours ce problème là où, enfin, je veux dire, quand tu regardes le match, concrètement tu dois gagner 3-0 ou 3-1, mais tu dois en mettre 2 ou 3 de plus, et je pense à Rafa notamment, mais bon, il met le bon, donc on va pas lui en vouloir, et donc ouais, j'ai trouvé ça assez impressionnant, ou en tout cas inattendu, et je pense que c'est dû, au-delà de l'ambiance qui était différente et tout ça, à ce qu'a dit Roger Schmidt en conférence de presse, et donc la présence de João Neves qui t'amène une fraîcheur et qui t'amène vraiment une espèce d'insouciance où le mec il fait 1m70 et il va aller au duel, et oui effectivement il met les coudes des fois, Mathieu, je sais que tu vas me reprendre là-dessus, mais avec des mecs comme Rašić qui sont des papas, pères de 8 enfants et qui ont, tu vois, genre qui ont même pas mal de bouteilles comparé à lui, et même physiquement, tu vois, et il t'amène un truc de j'ai pas peur d'y aller. Il est différent, ce joueur. Il est spécial. Il a un truc, on se disait même dans le stade. Exactement. On se disait même dans le stade, il a un truc de comparé à énormément de joueurs qu'on a lancés ces derniers temps et tout, il n'a pas peur d'avoir le ballon au pied, en fait. Il a pas peur de porter le ballon, il n'a pas peur de faire une passe vers l'avant. Il a pas tout réussi. Hein. Des fois, ça lui sort pas bien, parce que c'est une expression portugaise, mais bon, ça veut rien dire. Mais vous avez compris. Et je pense que cette nouvelle dynamique est en partie due à lui, et en partie due aussi à un autre élément qui est très important sur les 2-3 derniers matchs, c'est que David Neres est enfin titulaire. Et David Neres, on peut dire énormément de choses, des fois il marche, des fois il a la flemme, mais David Neres, quand il prend le ballon et quand il accélère, il fait des différences, et c'est un joueur qui va te, par un coup de rein, c'est impressionnant. Et pour avoir été à Chaves quand on perd il y a de ça 10 ou 15 jours, ceux qui ont déjà été au stade de Chaves se rendent compte que le terrain est très petit et quand tu es derrière le banc, tu es littéralement à 5 mètres de la ligne de touche. Et quand tu le vois de près, c'est encore plus impressionnant. C'est-à-dire que le mec est vraiment au ralenti et dans un microseconde, son démarrage est vraiment impressionnant. Et c'est là que tu te rends compte que ces types-là sont complètement différents de nous et qu'ils sont absolument des monstres d'athlètes. Et voilà. Et donc, je pense que c'est vraiment la différence se fait par ces deux joueurs-là, un pressing retrouvé, entre guillemets, une intensité retrouvée et des ajustements, si je puis dire, de Roger Schmidt qui sont à saluer, même si à la base, j'avais un peu peur que le milieu soit un peu déséquilibré sans Florentino quand il choisit Machiquinho et Neves. Mais confiance en lui et au final ça se passe plutôt bien. Je sais pas si j'ai été complet ou si j'ai trop parlé même, mais à vous de me dire.
Moi je voulais juste revenir sur le cas Joao Neves qui je m'amuse à faire le parallèle un peu avec Renato Sanchez il y a quelques années où vous gagnez le titre clairement parce qu'il y a Renato Sanchez qui entre dans l'équipe. Pour moi, quand Renato Sanchez rentre dans l'équipe, il y a tout une atmosphère qui se dégage du côté du Benfica. Il bouleverse un peu l'équipe simplement par son dynamisme, par sa puissance, par sa verticalité, par son envie tout simplement. Et je retrouve la même chose avec Joao Neves. Alors Joao Neves arrive bien plus tard que Renato Sanchez dans la saison, mais tu sens vraiment que si Benfica regagne ou plutôt refait des bons matchs, c'est grâce à l'intronisation de Joao Neves au milieu de terrain. Et pour moi, c'est oui, comme tu viens de le dire, c'est en grosse partie grâce à lui que Benfica redémarre de nouveau à gagner, reprend du plaisir à gagner et reprend du plaisir à jouer tout simplement parce qu'il apporte ce dynamisme, il apporte cette folie, cette jeunesse, cette fougue qu'il n'y avait pas chez Chiquinho par exemple. Et il fait du bien au milieu de terrain et au-delà du fait de sa qualité balle au pied qu'on connaissait tous, hein, je pense qu'on avait tous un peu on le connaissait déjà un peu tous sa qualité balle au pied. Moi, ce qui m'a surpris, c'est ce que j'admire chez lui, c'est sa qualité on va dire sur ses parties inférieures, c'est sur ses jambes, sur ses cuisses. Où vraiment il a une puissance qui se dégage que je ne connaissais pas auparavant et vraiment sur sa, voilà, il est solide sur ses appuis, il va au contact, il saute haut, il prend des ballons de la tête, il fait mal à ses adversaires quand il va au contact, il ne tombe pas, il est rapide, donc voilà, moi autant sur ses qualités de passe et tout j'avais aucun doute, mais sur cette puissance là, sur cette puissance au niveau des jambes, je ne connaissais pas du tout cette qualité là
ouais,
c'est vraiment flippant hein, à
C'est pour compléter ce que tu dis, c'est quelque chose qui m'a aussi impressionné parce que, alors moi je suis pas du tout un spécialiste autant que vous sur les jeunes joueurs et loin de là, mais je crois que j'en avais déjà parlé avec Dany. Moi à une époque, encore une fois, si ça se trouve, dites-moi si la comparaison n'a rien à voir, mais forcément tu penses à João Neves sorti de notre formation, tu penses à Thiago Dantas, selon moi. Et à une époque, quand je trouvais Thiago Dantas un peu léger dans le volume de jeu et tout ça, bien que techniquement il soit très bon et tout ça. C'est un peu des appréhensions que j'avais aussi avec João Neves, parce que même en B, du peu que j'ai vu, encore une fois, j'ai pas vu tous les matchs, je vais pas faire le spécialiste et faire semblant, ça restait un joueur qui techniquement était au-dessus, mais je me disais, est-ce qu'il a le gab en fait concrètement pour aller au-dessus, et littéralement il m'a vraiment mais vraiment impressionné. Comme tu dis, il gagne des duels et même sur corner, il prend des balles de la tête. Je sais que son premier match titulaire c'était il y a une semaine, je crois, je sais plus c'était qui qu'on
a joué la semaine dernière face à
exactement avant il a joué un autre match où il est peut-être rentré.
Stoli, il rentre, je crois.
Ok, parce que je sais plus, c'est
non, il est titulaire contre Stoli.
C'est son premier match titulaire et
Stoli contre Stoli, c'est son premier.
Ouais, ok, bah c'est ça alors. Et du coup, bah son premier corner, il marque pas, mais il prend un ballon de la tête que s'il marque, le stade aurait pris feu et personne l'attendait là en fait, tu vois. Et genre, c'est des trucs qui m'ont d'entrée impressionné. Et comme tu l'as dit, au-delà du côté technique, au-delà du, il a un QI foot au-dessus de la moyenne, on va pas se mentir. Je cours, je long, il sait tout faire. Dans l'intensité et dans le volume de jeu, j'étais réellement, réellement impressionné. Et ensuite, dans la personnalité, dans le caractère, le mec, t'as l'impression qu'il a 100 matchs dans les jambes chez les pros. Enfin, je veux dire, il va au duel, s'il faut s'embrouiller, il va s'embrouiller. S'il faut réclamer à l'arbitre et mal parler à l'arbitre, il va le faire. Je dis pas que c'est des qualités, encore une fois, hein, mais vraiment impressionnant de maturité pour le coup, parce que la qualité technique, on sait qu'il l'avait de base. Et ouais, comme le dit Ruben Neves, j'espère que c'est pas le bon et pas celui des Wolves dans le chat. Il est sur les tablettes du PSG apparemment, c'est pas anodin. J'espère qu'il va rester chez nous pendant un moment encore. Mais voilà, honnêtement impressionnant et je pense le moteur et la raison de ce renouveau de Benfica. Je sais pas ce que t'en penses toi Mathieu.
Ça revient un peu au propos de la semaine dernière, mais c'était finalement impossible qu'un jeune joueur de ce talent là, enfin qu'un jeune joueur arrive dans le 11 d'un entraîneur comme Schmidt s'il n'avait pas ce volume-là, en fait. Il aurait pu avoir toutes les qualités techniques possibles, entre guillemets, ou de progression balle au pied, ou de progression par la passe, ou de résistance à la pression. Enfin, toutes les qualités que peut avoir un top milieu de terrain avec ballon. Il y en a un, il est prêté à Passo, c'est Paulo Bernardo. C'est un joueur aussi, dans pas mal de ces aspects-là, qui est excellent. Mais pourtant, Schmidt n'en voulait pas. Parce que on se revient sur les débats du début de saison, on parlait d'un Sangaré à Benfica, on parlait de joueurs extrêmement complets, on parlait d'un Amousrati qui n'intéressait pas Schmidt parce qu'il n'était pas assez complet. Donc, on a beaucoup parlé, fameux, bien sûr, de cette doublette Enzo-Florentino en début de saison, parce que c'est de là à la fois se compléter d'un point de vue de leur profil, mais étaient aussi des joueurs qui avaient montré, même surtout à Florentino, avec ballon, des qualités balle au pied qui commençaient vraiment à équilibrer tout ce qu'il faisait sans ballon. Donc forcément, si Roger Schmidt joue en Neves titulaire dans le match du titre, car presque, l'un des matchs du titre, c'est parce que dans le volume, en tout cas, il savait qu'il allait apporter les garanties, et c'est ce qu'il a fait face à Braga, et c'est ce qui j'aurais adoré voir Al-Mousrati au milieu de terrain pour voir comment il se serait comporté aussi, mais force est de constater qu'il n'y avait pas non plus de peintre au milieu de côté de Braga, c'est Farsic et André Horta, et que tu avais l'impression que c'était un garçon qui avait une ou deux saisons déjà dans les jambes, mais qui n'avait pas 18 ans. Ce garçon n'a que 18 ans, c'est-à-dire qu'on se souvient au début de saison de tous les parallèles qu'on faisait avec Antonio Silva par rapport au fait qu'il n'avait que lui à l'époque 18 ans il y a 7-8 mois. Jean Neves, il a encore 18 ans, il y a encore un joueur qui est capable de faire de telles différences, et c'est sacrément impressionnant, et c'est vraiment mettre au crédit de Schmidt, parce que certainement que certains entraîneurs n'auraient pas mis Jean Neves, malgré le niveau qu'il montre aujourd'hui, ne l'auraient pas mis titulaire dans un tel match, et donc bravo à Roger.
Yes. Kevin, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Je crois que tu en as déjà dit un mot tout à l'heure, mais pour conclure sur Jean Neves, et après on parlera peut-être d'Antonio Silva, justement.
Moi, je vais un peu faire le parallèle avec Antonio Silva aussi, mais pour moi, c'est des joueurs qui ont la mentalité Benfica, quoi. C'est des joueurs qui incarnent le club, en vrai. C'est des joueurs qui, tu sais que de la première à la 90e minute, ils vont jouer sur tous les ballons, ils vont jouer avec leur trip, et t'en manquais cruellement de joueurs comme ça à Benfica avant. Et là, t'as Antonio Silva, t'as Otamendi qui a aussi un peu cette mentalité-là. Et là, tu la retrouves aussi avec Jean Neves, qui fait 1m10, mais il n'a pas peur d'aller au contact avec des mecs qui font 1m90 ou autre. Donc ça ne veut rien dire, c'est la mentalité qui compte. Et sur ce match-là, tu le vois encore plus, hein. Certes, le gamin est très fort et a des qualités indéniables, mais si tu n'as pas la mentalité qui va avec, tu ne vas pas aller loin. Et il a la mentalité, en tout cas, et il l'a montré sur ce match où il n'a pas peur, il joue comme un vieux de 30 ans, et c'est ça qui est impressionnant. En tout cas, c'est sa maturité aussi dans le jeu, où tout ce qu'il fait, c'est juste. Il ne va pas s'inventer une vie ou à chercher des passes compliquées ou autre. Tout ce qu'il fait, c'est juste, c'est simple, c'est dans le sens du jeu. Donc rien à dire, en tout cas. Et moi, j'adore ce genre de joueur où qui sait jouer simple et dans le sens du jeu.
Yes. C'est clair. Pour conclure sur Jean Neves, Antonio Silva et ses jeunes joueurs formés à Benfica, Mathieu Alex, avant de parler peut-être d'un autre joueur formé à Benfica qui est Gonçalo Ramos, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter ou pas?
Non, c'est juste mettre en avant Roger Schmidt, encore une fois, qui, comme l'a dit Mathieu, il y a beaucoup d'entraîneurs qui n'auraient pas fait confiance à ces jeunes joueurs pour ce genre de match-là. Un petit coucou à Jorge Jesus et à Ruben Amorim et à Sergio Conceição surtout. Et comme quoi, il a fallu que ce soit un entraîneur étranger qui arrive pour apporter ce vent de fraîcheur et montrer que notre formation est bonne et qu'on peut faire confiance à nos jeunes, que l'âge, la cardiauté n'a pas lieu à débat, tout simplement, que même si tu es 18 ans, 17 ans, 34 ans, si tu es bon, tu joues. Et ça démontre qu'il faut faire confiance à n'importe quel type de joueur du moment qu'il est prêt. Et que tu n'es pas forcément prêt à 23 ans, après avoir fait 4000 prêts du côté de Passos, de Chavez ou de Riab, je ne sais autre. Donc c'est bien, merci à Roger Schmidt pour ça, d'avoir lancé ces joueurs-là, parce qu'en plus on se rend compte que la colonne vertébrale du SLB, c'est que des joueurs formés au club, quoi, que ce soit Antonio Silva, que ce soit Florentino, Jean Neves, Gonzalo Ramos, c'est que des joueurs formés au club, et je pense que pour s'identifier à une équipe, ça passe aussi par là, que pour les supporters, c'est important d'avoir des joueurs formés au club, titulaire dans l'équipe, et pour les joueurs aussi, c'est important pour les jeunes d'être comment dire, de sentir en confiance, de sentir que le coach me fait confiance. C'est important pour tout, tout, tout joueur pour ceux aussi qui sont un peu plus bas, des joueurs de, je sais pas, 13-14 ans. Si tu vois des joueurs qui sont, si tu vois ta colonne vertébrale qui vient du Cheshire, forcément, toi, tu te dis, bah, pourquoi pas moi un jour? Et c'est comme ça que tu les gardes. Et je trouve ça, bah, voilà, que, donc voilà, merci à Roger Smith pour ça, d'avoir fait de nouveau confiance au Seychelles, parce que ça reste pour moi encore le meilleur centre de formation du Portugal. Et il envoie aussi, du coup, il met des bonnes claques à certains entraîneurs en leur disant, bah, comme quoi, peu importe l'âge, on peut jouer des matchs en jeu, même si on a 18 ans.
Yes. Un mot sur Gonçalo Ramos quand même avant qu'on switch parce que le temps file. Un joueur qui lui est toujours un peu dans le dur ces derniers temps, qui retombe dans ses travers parce qu'il avait atteint un pic qui ne lui ressemblait pas trop ces derniers temps, pour être parfaitement honnête. Moi, il m'impressionne énormément, même avec ballon et tout, il n'était plus du tout le même joueur par rapport à ce qu'il a été. Il fut un temps, ou en tout cas en début de saison. Bien que ce soit un milieu de formation, si je ne m'abuse. Il est dans le dur, et ça marche plus trop, entre guillemets. C'est un attaquant qui a une énorme activité et qui, dans le système de Schmidt, est extrêmement utile parce que voilà, il a quatre poumons et il ne s'arrête pas. Mais il te laisse, en tout cas de la perception que j'ai, un sacré vide devant, entre guillemets. Enfin, je veux dire, combien de fois il est au poteau de corner et il n'y a personne dans la boîte, quoi. C'est ce qui est assez compliqué quand tu vois que Musa peut t'apporter d'autres perspectives, notamment, et qui Musa a prouvé plus d'une fois que c'était un attaquant qui pesait sur une défense et qui pesait sur des défenseurs centraux. Qu'est-ce que vous en pensez, et est-ce que finalement Ramos ne surperformait-il pas, ou est-ce qu'il est juste dans une mauvaise passe et il est un peu fatigué aussi parce qu'il a beaucoup enchaîné? Qu'est-ce qu'on pense de ça? Qui va?
Qui va? Non, je peux commencer, après les autres me compléteront. Je pense qu'il a rencontré l'amour, tout simplement.
El Teoremo.
Le théorème de Dani.
Non, mais pour être plus sincère, je pense qu'il y a, une sorte de lien à effet aussi. Je pense que, je dirais pas que c'est toujours que c'est dans sa globalité, mais il y a beaucoup d'exemples qui prouvent que, bah, quand tu es moins concentré sur le football, tu es moins performant, et je pense que c'est le cas. Je pense que, bah, y a eu ça. Je ne dirais pas que c'est la faute à sa copine, loin de là. Peut-être que lui met moins d'investissement dans ce qu'il veut faire. Il est moins... Comme tu as dit, je pense qu'il était peut-être en surrégime à un moment où c'est vrai qu'il tentait des choses et tout ce qu'il tentait est rentré. Et bah, après, voilà, c'est vrai que, bah, pour l'avoir suivi quand même tout son parcours des U16 jusqu'à maintenant, je sais que c'est un joueur qui a quand même qui a quelques qualités techniques. C'est pas un peintre balle au pied, et ce qu'il montre actuellement n'est pas vraiment son niveau. Mais ce qu'il montrait aussi il y a 2-3 mois, il était peut-être en sur-régime. Maintenant, je trouve que son niveau se situe entre les deux. Il va reprendre confiance en lui. Il a 21 ans, enfin, même pas. Je crois que oui, il a 21 ans, il est encore très jeune. Être titulaire numéro 9 portugais en plus au sein du SLB, c'est peut-être quelque chose de compliqué, parce que le dernier qui était titulaire, je sais pas, c'était peut-être Nuno Gomes, et portugais, je parle évidemment. Donc voilà, il y a toute cette pression aussi, je pense, qu'il doit jouer sur ses épaules. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur un transfert, et il y a eu le triplé en Coupe du Monde, où ça le comparait déjà à Ronaldo, où il fallait qu'il saute Ronaldo, je ne sais quoi. Enfin, il y a eu toute une pression sur lui, je pense, qui maintenant retombe en quelque sorte, et ça a du mal un peu à redémarrer. Mais je pense que c'est un joueur qui est pétri de talent, qui, pour moi, doit rester encore une année à Benfica pour prouver comme quoi que c'est un super attaquant. C'est encore, ça reste le meilleur buteur du championnat. Je suis pas inquiet pour lui. Maintenant, je trouve que c'est pas lui faire du bien d'insister sur lui. Je pense qu'il a besoin d'être un peu mis en concurrence par Moussa, notamment, qui fait toujours de très bonnes rentrées. Et c'est pas lui faire du bien d'insister sur lui, qu'il joue tout le temps, tous les matchs, quasiment 60 minutes, 70 minutes à chaque fois. Il a besoin de concurrence. Il a besoin de lui montrer que, bah, s'il est pas bon, il doit aller sur le banc comme tout le monde. Et voilà, mais je pense que je ne suis pas inquiet pour lui, il va redémarrer, il va retrouver son niveau. Mais pour ça, il faudra qu'on lui instaure une concurrence, et surtout ne pas partir trop vite du Portugal, parce que là, il montre encore qu'il a quelques limites, et que partir dans un PSG ou je ne sais où, Manchester United, enfin, j'entends des rumeurs un peu tout et n'importe quoi, ce ne serait pas bon pour lui. Il doit faire encore une saison, voire deux, avant de partir à l'étranger.
Ouais, c'est clair. Et tu le dis, c'est vrai qu'on l'oublie souvent, parce que ça reste quand même, bien qu'il ait énormément de défauts. Énormément. C'est un très bon joueur, mais avec quand même pas mal de choses à améliorer. Il a que 21 ans, c'est vrai. Et j'ai personnellement tendance à l'oublier, parce que j'ai l'impression qu'il fait plus. Mais effectivement. Et du coup, le cas Musa reflète un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne sais plus qui disait ça, c'était peut-être moi, que Roger Schmidt ne fait pas confiance en son banc. Parce que c'est un joueur qui, comme tu l'as dit, fait toujours de bonnes entrées et te démontre qu'il a des qualités pour mériter plus de minutes. Et malgré ça, contre Chavez, justement, bah, il rentre à la 90e et il fait rentrer Tengstedt qui n'a aucune minute dans les jambes à la 75e et qui ne va pas toucher un ballon du match. Il rentre à chaque fois quand il rentre et qu'il est la première option à la 85e ou à la 90e quand c'est plié. Et ça reflète quand même bien le fait que, bien que Roger Schmidt ait énormément de qualité, il a quand même aussi, après c'est pas un défaut, mais en tout cas il a pas confiance dans son banc actuellement, et que du coup ça pose problème, et ça c'est sûrement ce qui explique aussi le coup de mou qu'a connu l'équipe il y a un moment. Daniel C nous dit il y aura Enrique Araujo après. Je suis pas certain, j'aimerais bien, mais pas sûr. Et que Ramos est juste cramé. Oui, ça fait partie, hein, effectivement de ça. Mais voilà, Mathieu, je sais pas ce que t'en penses pour conclure là-dessus avant qu'on passe sur le deuxième sujet du soir.
Non, je suis. On a fait les éloges, de Roger Schmidt par rapport au cas Neves. Sur le cas Moussa, où je suis un peu plus dubitatif. Je trouve que après voilà, j'aime beaucoup l'attaquant qui est Petar Moussa, donc j'aimerais juste le voir un peu plus parce que des fois, on n'est pas aux entraînements, donc il a sûrement ses raisons en fait, hein, parce que c'est vrai que des matchs, c'est notamment ce match à Chavez, c'était vraiment étonnant de voir. Tengstedt remplacer Ramos et Moussa, je crois, entre après, bien après, il me semble. Donc oui, c'était étonnant, surtout par rapport aux bonnes entrées de Moussa en première partie de saison, sur les bonnes entrées sur les derniers matchs. Donc voilà, sur son ratio minutes but marqué qui est impressionnant. Donc voilà, pour toutes ces petites raisons, voilà, on en avait parlé un peu il y a quelques semaines, lorsque Benfica était vraiment dans un coup de mou et que un turnover à un certain moment de la saison, ou un turnover un peu plus affirmé, aurait peut-être fait en sorte de garder quelques forces pour éviter un peu ce moment de flottement début avril. Mais force est de constater aussi que voilà, que ça fonctionne. Benfica va sûrement être champion, donc ça lui donne une certaine raison aussi.
Okay. Et comment comment on voit, pour conclure, vraiment, ça fait 15 fois que je dis pour conclure et que je pose encore
une question.
Comment on voit du coup la fin du championnat là, d'un point de vue neutre et parfaitement objectif?
Moi, je vois pas comment Benfica prend, franchement.
Ouais, je dirais pas que je suis certain à 100%, mais je pense que le classement des 4 premiers va rester le classement des 4 premiers à la dernière journée.
Je pense aussi, ouais. Je vois pas de surprise particulière maintenant. Encore une fois, tout est possible dans le football, mais je vois pas un bouleversement du classement. Je pense que si on veut du suspense et de l'enjeu, il faut se concentrer sur la place de barragiste pour le maintien, et surtout aussi pour la place en Conference League, même si la victoire de Chavez a mis un petit coup de moins bien à Famedica. Mais sinon, je pense que pour les 4 premières places, c'est figé.
Yes, on aura le temps d'en reparler en long et en large. On a un dernier sujet à traiter. On a 10 minutes pour le faire avant le match, mes chers amis. Parlons du FC Porto et de ce match d'hier. Non, je déconne, on va certainement pas.
Non.
Mais Kevin, ouais, parle-nous de ce qui se passe à Porto là, et de ce qui se passe avec Uribe. Si tu peux nous résumer la situation et nous donner ton ressenti dessus, nous t'écoutons.
Et surtout, pourquoi n'arrive pas à prolonger ces joueurs, quoi. C'est vraiment, je ne comprends pas ça. Kevin répond à cette question. Je ne comprends pas pourquoi Porto n'arrive à prolonger aucun de ses joueurs. Enfin, si, je sais pourquoi, mais j'attends que tu expliques.
Déjà, c'est un éternel recommencement depuis quelques années où le FC Porto va encore une fois perdre un joueur majeur de son équipe, un joueur titulaire qui est titulaire indiscutable dans cette équipe, en la personne de Uribe. Qui n'est pas le premier ni le dernier, je pense, qui va partir libre en fin de saison. On a l'image avec les années précédentes de joueurs comme Brahimi, Marega, Herrera, des joueurs qui étaient
Mbemba,
des joueurs qui étaient importants dans le dispositif du FC Porto et qui au final partent librement. Déjà, c'est pour plusieurs raisons. Les problèmes financiers du FC Porto, parce que le FC Porto est un club qui est mal géré et du coup qui a des dettes depuis quelques années déjà, et que il y a aussi une mauvaise anticipation de la part du FC Porto qui n'anticipe rien du tout, qui a une politique à court terme, qui va essayer, entre guillemets, de garder les joueurs jusqu'à la fin et de les user jusqu'à la fin, comme, si on peut le dire, dans une logique sportive. Par exemple, si on est engagé dans une compétition importante comme le championnat où on lutte pour le titre, bah, on va essayer de garder nos joueurs jusqu'à la fin sans essayer de les prolonger pour qu'ils partent libres à la fin. Ça, c'est une situation que je ne comprends pas. Certes, c'est une logique sportive parce que tu as besoin de ce joueur-là. Mais bon, au final, tu as besoin de ce joueur-là, mais à la fin, il part libre, donc tu n'encaisses rien. Et quand tu as des bons joueurs, bah, tu les laisses partir, par exemple, en hiver, comme Luis Diaz, à rabais. Donc, je ne comprends pas trop cette position. Au final, tu vas perdre un joueur important et tu ne sais pas qui tu vas retrouver après. Surtout vu les recrutements de ces dernières années de part du FC Porto. Je ne sais pas qui on va aller chercher et surtout qui va avoir le même rendement qu'Uribe qu'il avait là dans l'équipe. Encore une fois, magnifique gestion où tu vas perdre un joueur important et tu vas le remplacer par un joueur banal, je pense. Après, j'espère qu'on va peut-être chercher un bon joueur, mais je pense que dans la logique des dirigeants, c'est Eustache et Grealish qui vont faire comment dire, le remplacement. Voilà.
Qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qu'on est-ce qu'on complète le propos? Ah,
Ouais, je
Alex.
voudrais juste compléter un petit truc et Kevin a quasiment tout dit. Ouais, déjà l'aspect financier, c'est pas parce que le FC Porto est sorti des clous du FPF que le FC Porto respire une bonne santé financière, loin de là, faut pas confondre. Mais surtout, ouais, c'est une mauvaise gestion, une mauvaise anticipation. Alors, moi, enfin, insister sur un mec en fin de contrat, pourquoi pas? Écoute, comme a dit Kevin, il y a aussi une logique sportive où c'est un cadre, t'as pas forcément envie de le vendre, mais dans ce cas-là, anticipe les choses, enfin, tu sais qu'il. Il y a de fortes chances qu'il ne va pas prolonger la saison suivante. Donc, anticipe et prend un joueur l'été dernier, quoi. Enfin, en été 2022, il fallait prendre un joueur qui apporte de la concurrence à Uribe, qui soit à peu près du même profil, pour ensuite pouvoir lui s'adapter une saison au Portugal et au FC Porto, et ensuite prendre sa place une fois que Uribe va partir. Et là, au final, non, Uribe va partir, tu vas prendre un joueur ou pas au dernier moment, et ça se trouve, ce joueur n'aura pas le temps de s'adapter, et forcément, ça sera une mauvaise recrue sur la saison. Déjà, pour moi, ça, c'est catastrophique. Et ensuite, oui, je pense qu'il faudra aussi peut-être revoir les contrats, parce que je pense qu'il y aura de plus en plus de joueurs libres, enfin, de joueurs qui vont tout faire pour partir libre, parce que quoi? Parce qu'il y a des primes à la signature, tout simplement, qui sont proposées de plus en plus hautes. Et ça, c'est vraiment un fléau du football, je pense, qui va arriver de plus en plus. C'est qu'il y a les joueurs vont vouloir partir libre. Alors maintenant, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, justement. Si tu n'as pas envie de prolonger, bah, tu n'as pas envie de prolonger. Mais c'est au club, peut-être, de mieux négocier le contrat, d'anticiper mieux les choses. Et ça, le FC Porto n'est plus capable de le faire depuis maintenant beaucoup trop d'années.
Mathieu?
On n'est plus un seul délire de direction sportive de la part du FC Porto après, hein, donc à partir de là, on a déjà beaucoup évoqué les cas des fins de contrat du FC Porto. Celui-là n'est qu'un cas de plus d'une gestion sportive absolument catastrophique. Catastrophique, hein. Tu peux avoir l'argument de le garder une saison de plus, mais comme l'a très bien dit Alex, il faut anticiper. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un joueur qui soit prêt à prendre la succession de la saison prochaine, c'est-à-dire voilà, de commencer à avoir des minutes de jeu dès cette saison, de commencer à comprendre le modèle de jeu de Sergio Conceição, s'il y en a un, d'essayer de comprendre voilà, le jeu en lui-même. Je prends le cas d'un cas assez parlant, c'est en Angleterre, qui est le cas de Divock Smah, qui est parti à Tottenham et qui est. Et Moises Caicedo jouait déjà la saison dernière, jouait pas beaucoup, a commencé à avoir de plus en plus de temps de jeu, et en début de cette saison, avait déjà des offres l'hiver dernier. Donc après, il y a eu le facteur Coupe du Monde, mais c'est un cas d'anticipation voilà, assez parlant si on suit le football d'aujourd'hui. Sinon, tu le vends l'été dernier, si tu sais qu'il va pas prolonger, tu. Voilà, c'est juste qu'il faut aussi anticiper, c'est-à-dire si tu le laisses partir, il faut que tu aies un remplaçant du même niveau qui soit capable de venir et de t'apporter des choses aussi bonnes, voire meilleures, puisque Uribe non plus n'est pas non plus le meilleur milieu de terrain du monde. C'est un bon milieu de terrain, c'est un très bon joueur, c'est pas le meilleur milieu de terrain qui soit passé au Portugal et au FC Porto ces dernières saisons. Donc
Pour ça
c'est
qu'il part
la
en
logique.
joue hein.
Oui, bah oui, on est bien
Ah,
d'accord. Hein. Même s'il y avait des clubs, hein, bon, ça a parlé à la Lazio, c'est vrai que j'y croyais pas trop non plus.
il y avait quand même des
oui.
clubs plus intéressants, même si
Il y avait
tu
quand même
crois
des
pas.
clubs plus intéressants. Après, voilà, je suis à moitié d'accord avec Kevin sur le côté de l'argent, dans le sens où pour moi, un joueur de cet âge-là va forcément te demander beaucoup d'argent. Même si tu étais dans une situation financière pérenne, il t'aurait demandé beaucoup, beaucoup. Et dans
Il
ces cas-là,
a quel âge? 30 et quelques? 30?
bah oui, il doit avoir
En plus, il a plus de
31.
30, je crois.
Ah ouais?
31.
Okay. Regardez ça du tout.
Oui, ouais, donc,
est-ce
ouais,
que c'est un Sud-Américain?
Bah, il est arrivé, il était vieux déjà du Mexique.
Ouais, ouais. Il a 32 ans déjà au Rivé. Donc,
ah oui, okay, ouais,
donc il arrive dans son dernier contrat. Donc,
ouais, donc il a
dans tous les cas, finalement, soit tu pouvais avoir cette logique court-termiste qui peut se comprendre. Il ne faut pas avoir un problème avec la logique court-termiste. C'est-à-dire qu'on n'a pas, hier dernier, on n'a pas dit que Guedes était un mauvais choix. Pourtant, c'est une logique hyper court-termiste de 6 mois. Mais Benfica avait besoin d'un Guedes. Bon, après, il s'est blessé. Malheureusement, on verra s'il sera prêté une deuxième fois. Mais il n'y a pas toutes les logiques court-termistes ne sont pas mauvaises dans le sens où voilà si t'avais si il s'agit d'un milieu de terrain extraordinaire qui arrivait sur ses 32 ans et tu savais qu'il allait partir, c'est pas voilà, tu sais qu'est-ce qui tu sais qu'il y a une logique sportive, il y a des gains sportifs qu'il peut t'apporter et ensuite voilà, il fallait juste prévenir ça, avoir un remplaçant déjà pour la saison prochaine dans ton effectif ou déjà préparer voilà la saison suivante, ce que le FC Porto n'a pas fait. Donc à partir de là l'effectif, les qualités de l'effectif global du FC Porto se dégrade d'année en année. On verra jusqu'à quand ce club là arrivera à tenir. Pour l'instant ils arrivent à tenir avec son coach, mais voilà, je sais pas si ça peut tenir encore très longtemps avec cette logique sportive.
Une gestion à l'image gestion d'un cas à l'image de la politique globale actuelle du FC Porto et notre superbe arbitre portugais qui vient de se manger un vent par le petit qui l'accompagne pour l'entrée dans ce match de Ligue des Champions que nous allons aller regarder tout de suite. Messieurs, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter, peut-être une mention spéciale très rapide parce que les joueurs rentrent et qu'il va y avoir l'hymne de la Ligue des Champions sous peu?
Mention spéciale à Giovanni Kendai. Si, voilà, la fédération portugaise qui a vite fait naturaliser Giovanni Kenda pour l'Euro U17. Ils ont pris peur, je ne sais pas, ils ont vu que ça allait être compliqué, qu'on allait peut-être faire sortir au premier tour, du coup ils se sont empressés de naturaliser Giovanni Kenda qui n'a absolument rien à foutre du Portugal, je pense. Enfin, du moins depuis que je le suis, il n'a jamais parlé du Portugal. Sa bio Instagram, c'est que le Guinée-Bissau. Quand il parle, c'est que Guinée-Bissau. Enfin, pour moi, c'était impossible de le voir jouer sous notre maillot. Il est là, tant mieux, parce que c'est un excellent joueur, et on ne va pas cracher dessus. Mais ça prouve quand même aussi que même au sein de la fédération, il y a une gestion qui est très, très particulière.
Très bien. Mathieu, mention spéciale ?
Vite fait, rebondir sur ce qu'a dit Alex, il sait très bien que voilà, je suis très mitigé par rapport à ce cas-là, qui me dérange beaucoup, mais bon, après, on en a parlé, mais voilà, ça me dérange un peu. Non, dire qu'on a parlé de Léry la semaine dernière, belle année, ça, je suis en deuxième division.
Voilà.
Donc ouais. On aura une belle finale de Liga 3 entre ces deux historiques clubs du Portugal et on aura le vrai Belenenses 5 ans après de retour dans les championnats professionnels portugais. Donc voilà, ça fait très plaisir avec un bon entraîneur, Bruno Dias. J'avais acheté son livre il y a quelques années. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Non, on ne le voit pas du tout.
Non, on ne le voit pas, mais on te fait totalement confiance.
Mais je l'ai retrouvé.
Ça se trouve, il a montré Harry Potter là, on n'est pas du tout au courant. Mais bref.
Non, quand même pas. Voilà.
Non, pas voilà du tout.
Donc voilà, pour lui et une très belle finale qui s'annonce. Il y a des très très belles finales au Jamor qui s'annoncent dans les prochaines semaines.
Kevin, c'est toi qui conclut. Est-ce que tu as une mention spéciale?
Mention spéciale à Wendell. Parle vite du club parce que je te déteste. C'est trop nul. C'est vraiment trop nul. C'est le pire latéral au monde. J'ai jamais vu ça. En plus, il fait toujours des têtes à chaque fois là de lui.
Il est fatigué.
À chaque fois, il se fait bouger, il est au sol. Ah, il m'énerve.
C'est vrai que j'ai remarqué ça.
Du club.
Ok, bah écoutez, parfait. Ok, bah on est bon. Je crois qu'on a fait le tour pour ce soir, messieurs. On file pour la Ligue des Champions. J'ai mes pattes qui sont en train de chauffer. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés. Pouce bleu, la cloche. On partage. Merci d'être toujours plus nombreux. Et on se revoit très vite pour un nouvel épisode de Golasso. Messieurs, excellente soirée. Très bonne demi de Ligue des Champions.
Ciao, bonne soirée.
Ciao les gars, bonne soirée et vive Manchester City.
Ciao.